Deuxième partie. À combien l'amour revient au vieillard. Chapitre 32. 100 000 francs placés en Asie. Depuis 8 jours, Nucingen allait marchander la livraison de celle qu'il aimait presque tous les jours dans l'entresol de la rue Neuve-Saint-Marc. Là trônait Asie, entre les plus belles parures, arrivée à cette phase horrible où les robes ne sont plus des robes et ne sont pas encore des haillons. Le cadre était en harmonie avec la figure que cette femme se composait, car ces boutiques sont une des plus sinistres particularités de Paris. On y voit des défroques que la mort y a jetées de sa main décharnée, et l'on entend alors le râle d'une phtisie sous un châle, comme on y devine l'agonie de la misère sous une robe lamée d'or. Les atroces débats entre le luxe et la faim sont écrits là sur de légères dentelles. On y retrouve la physionomie d'une reine sous un turban à plumes, dont la pose rappelle et rétablit presque la figure absente. C'est le hideux dans le joli. Le fouet de Juvénal, agité par les mains officielles du commissaire-priseur, éparpille les manchons pelés, les fourrures flétries des messalines aux abois. C'est un fumier de fleurs, où çà et là brillent des roses coupées d'hier, portées un jour, et sur lequel est toujours accroupie une vieille, la cousine germaine de l'usure. L'occasion, chauve, édentée, est prête à vendre le contenu tant elle a l'habitude d'acheter le contenant. La robe sans la femme, ou la femme sans la robe. Asie était là, comme l'argousin dans le bagne, comme un vautour au bec rougi sur des cadavres, au sein de son élément, plus affreuse que ces sauvages horreurs qui font frémir les passants étonnés quelquefois de rencontrer un de leurs plus jeunes et frais souvenirs pendu dans le sale vitrage derrière lequel grimace une vraie Saint-Estève retirée. D'irritation en irritation, et de 10 000 en 10 000 francs. Le banquier était arrivé à offrir 60 000 francs à madame de Saint-Estève, qui lui répondit par un refus grimacé à désespérer un macaque. Après une nuit agitée, après avoir reconnu combien Esther portait de désordre dans ses idées, après avoir réalisé des gains inattendus à la bourse, il vint enfin un matin avec l'intention de lâcher les 100 000 francs demandés par Asie, mais il voulait lui soutirer une foule de renseignements. « Tu te décides donc, mon gros farceur !» lui dit Asie en lui tapant sur l'épaule. La familiarité la plus déshonorante est le premier impôt que ces sortes de femmes prélèvent sur les passions effrénées ou sur les misères qui se confient à elles. Elles ne s'élèvent jamais à la hauteur du client. Elles le font asseoir côte à côte auprès d'elles sur leur tas de boue. Asie, comme on le voit, obéissait admirablement à son maître. « Il le vaut bien, » dit Nucingen. « Et tu n'es pas volé, » répondit Asie. « On a vendu des femmes plus chères que tu ne paieras celles-là, relativement. Il y a femmes et femmes. De Marsay a donné de Coralie 60 000 francs. Celle que tu veux a coûté 100 000 francs de première main. Mais pour toi, vois-tu, vieux corrompu, c'est une affaire de convenance. Mais où est d'elle ? Ah, tu la verras. Je suis comme toi, donnant, donnant. Ah, ça, mon cher, ta passion a fait des folies. Ces jeunes filles, ça n'est pas raisonnable. La princesse est en ce moment ce que nous appelons une belle de nuit. À une pelle ? Allons, vas-tu faire le jobard ? Elle a louchard à ses trousses. je lui ai prêté, moi, 50 000 francs.
25, dis donc, s'écria le banquier.
Parbleu, 25 pour 50, ça va sans dire, répondit Asie. Cette femme-là, faut lui rendre justice, c'est la probité même. Elle n'avait plus que sa personne, elle m'a dit. Ma petite madame Saint-Estève, je suis poursuivie. Il n'y a que vous qui puissiez m'obliger.
Donnez-moi 20 000 francs et je vous les hypothèque sur mon cœur.
Oh, elle a un joli cœur. Il n'y a que moi qui sache où elle est.
Une indiscrétion me coûterait mes 20 000 francs.
Auparavant, elle demeurait rue Thébou. Avant de s'en aller de là, son mobilier était saisi, rapport aux frais.
C'est gueux d'huissier. Vous savez, vous qui êtes un fort de la bourse.
Eh bien, pas bête, elle a loué pour 2 mois son appartement à une Anglaise, une femme superbe qu'avait ce petit chose, Rubempré pour amant, et il en était si jaloux qu'il la faisait promener la nuit. Mais, comme on va vendre le mobilier, l'Anglaise a déguerpi, d'autant plus qu'elle était trop chère pour un petit criquet comme Lucien.
« Vous faites la banque ?»«
En nature, » dit Asie. « Je prête aux jolies femmes, et ça rend, car on escompte 2 valeurs à la fois. » Asie s'amusait à charger le rôle des revendeuses à la toilette, qui sont bien âpres, mais plus patelines, plus douces que la malaise, et qui justifient leur commerce pour des raisons pleines de beaux motifs. Asie se posa comme ayant perdu ses illusions, 5 amants, ses enfants, et se laissant voler. Elle montra de temps en temps des reconnaissances du mont-de-piété pour prouver combien son commerce comportait de mauvaises chances. Elle se donna pour gênée, endettée. Enfin, elle fut si naïvement hideuse que le baron finit par croire au personnage qu'elle représentait.
« Eh bien, si je lâche les 100 000, où la verrai-je »
dit-il en faisant le geste d'un homme décidé à tous les sacrifices. « Mon gros père, tu viendras ce soir avec ta voiture, par exemple, en face le gymnase. C'est le chemin, » dit Asie. « Tu t'arrêteras au coin de la rue Sainte-Barbe. Je serai là en vedette. Nous irons trouver mon hypothèque à cheveux noirs. Oh, elle a de beaux cheveux, mon hypothèque. » En ôtant son peigne, Esther se trouve à couvert comme sous un pavillon. Mais, si tu te connais aux chiffres, tu m'as l'air assez jobard sur le reste. Je te conseille de bien cacher la petite, car on te la fourre à Sainte-Pélagie et vivement, le lendemain, si on la trouve. Et on la cherche.
Ne pourrait-on point dragader l'épilette ?
Dit l'incorrigible Lou Servier. L'huissier les a, mais il n'y a pas mèche. L'enfant a vécu une passion et a mangé un dépôt qu'on lui redemande. Ah, dame, c'est un peu farceur, un cœur de 22 ans.
Pon, pon, j'arrangerai ça,
dit Nucingen en prenant son air finaud.
Il est bien entendu que je serai son protecteur.
Eh, grosse bête, c'est ton affaire de te faire aimer par elle, et tu as bien assez de moyens pour acheter un semblant d'amour qui vaille le vrai. Je te remets la princesse entre les mains. Elle est tenue de te suivre. Je ne m'inquiète point du reste. Mais elle est habituée au luxe, aux plus grands égards. Ah, mon petit, c'est une femme comme il faut. Sans cela, lui aurais-je donné 15 000 francs.
Eh bien, c'est titre, à ce soir.
Le baron recommença la toilette nuptiale qu'il avait déjà faite, mais cette fois avec la certitude du succès. À 9 heures, il trouva l'horrible femme au rendez-vous et la prit dans sa voiture.
« Où ? »
dit le baron.
« Où ? »
fit Asie. « Rue de la Perle, au Marais, une adresse de circonstance, car ta perle est dans la boue, mais tu la laveras. » Arrivée là, la fausse madame Saint-Estève dit à Nucingen avec un affreux sourire. « Nous allons faire quelques pas à pied. Je ne suis pas assez sotte pour avoir donné la véritable adresse. »
« Tu penses à toutes ?»
répondit Nucingen.
C'est mon état, répliqua-t-elle.
Asie conduisit Nucingen rue Barbette, où, dans une maison garnie tenue par un tapissier du quartier, il fut introduit au 4e étage. En apercevant dans une chambre mesquinement meublée Esther mise en ouvrière et travaillant à un ouvrage de broderie, le millionnaire pâlit. Au bout d'un quart d'heure, pendant lequel Asie eut l'air de chuchoter avec Esther, à peine ce jeune vieillard pouvait-il parler.
« Montmicelle, dit-il enfin à la pauvre fille, aurez-vous la bonté de m'accepter comme votre protecteur ?»«
Mais il le faut bien, monsieur, dit Esther, dont les deux yeux laissèrent échapper deux grosses larmes qui roulèrent le long de ses joues.
« Ne pleurez point, je veux vous rendre la plus heureuse de toutes les femmes. Laissez-vous seulement aimer par moi, vous ferez. »«
Ma petite, monsieur est raisonnable, dit Asie. Il sait bien qu'il a 66 ans passés, et il sera bien indulgent. Enfin, mon bel ange, c'est un père que je t'ai trouvé. »«
Faut lui dire ça, dit Asie à l'oreille du banquier surpris. On ne prend pas des hirondelles en leur tirant des coups de pistolet.
Venez par ici, dit Asie en emmenant Nucingen dans la pièce voisine. Vous savez nos petites conventions, mon ange. Nucingen tira de la poche de son habit un portefeuille et compta les 100 000 francs que Carlos, caché dans un cabinet, attendait avec une vive impatience et que la cuisinière lui porta.
« Voilà 100 000 francs que notre homme place en Asie. Maintenant, nous allons lui en faire placer en Europe, » dit Carlos à sa confidente quand ils furent sur le palier. Il disparut après avoir donné ses instructions à la malaise qui rentra dans l'appartement où Esther pleurait à chaudes larmes. L'enfant, comme un criminel condamné à mort, s'était fait un roman d'espérance, et l'heure fatale avait sonné. « Mes chers enfants, » dit Asie, « où allez-vous aller, car le baron de Nucingen ?»
Esther regarda le banquier célèbre en laissant échapper un geste d'étonnement admirablement joué.
« Oui, mon enfant, je suis le baron de Nucingen. »
« Le baron de Nucingen ne doit pas, ne peut pas rester dans un chenil pareil. Écoutez-moi, votre ancienne femme de chambre, Eugénie. »«
Eugénie, te la ris tête boute !» s'écria le baron.
« Eh bien oui, la gardienne judiciaire des meubles, reprit Asie, et qui a loué l'appartement à la belle anglaise. »«
Ah, je comprends, dit le baron. »
« L'ancienne femme de chambre de madame, reprit respectueusement Asie en désignant Esther, vous recevra très bien ce soir, et jamais le garde du commerce ne s'avisera de la venir chercher dans son ancien appartement qu'elle a quitté depuis 3 mois.
« Parfait, parfait, s'écria le baron. D'ailleurs, je connais les cartes du commerce, et je sais, tes paroles purent les faire disparaître.
Vous aurez dans Eugénie une fine mouche, dit Asie. C'est moi qui l'ai donnée à madame.
Je la connais, s'écria le millionnaire en riant. Eugénie, ma gibe est 30 000 francs.
Esther fit un geste d'horreur sur la foi duquel un homme de cœur lui aurait confié sa fortune.
Oh, par ma vaude, reprit le baron. « Je courais après vous !»
Et il raconta le quiproquo auquel avait donné lieu la location de l'appartement à une Anglaise. « Eh bien, voyez-vous, madame, » dit Asie, « Eugénie ne vous a rien dit de cela, la rusée. Mais madame est bien habituée à cette fille-là, » dit-elle au baron. « Gardez-la tout de même. » Asie reprit Nucingen à part et lui dit, « Avec 500 francs par mois à Eugénie, qui arrondit joliment sa pelote, vous saurez tout ce que fera madame. Donnez-la lui pour femme de chambre. Eugénie sera d'autant mieux à vous qu'elle vous a déjà carotté. Rien n'attache plus les femmes à un homme que de le carotter. Mais tenez Eugénie en bride. Elle fait tout pour de l'argent, cette fille-là. C'est une horreur.
Et toi ?
Moi, fit Asie, je me rembourse. Nucingen, cet homme si profond, avait un bandeau sur les yeux. Il se laissa faire comme un enfant. La vue de cette candide et adorable Esther, essuyant ses yeux et tirant avec la décence d'une jeune vierge les points de sa broderie, rendait à ce vieillard amoureux les sensations qu'il avait éprouvées au bois de Vincennes. Il eût donné la clé de sa caisse. Il se sentait jeune, il avait le cœur plein d'adoration. Il attendait qu'Asie fût parti pour pouvoir se mettre aux genoux de cette madone de Raphaël. Cette éclosion subite de l'enfance au cœur d'un loup cervier, d'un vieillard,
est un des phénomènes sociaux que la physiologie peut le plus facilement expliquer. Comprimé sous le poids des affaires, étouffé par de continuels calculs, par les préoccupations perpétuelles de la chasse aux millions, l'adolescence et ses sublimes illusions reparaît, s'élance et fleurit comme une cause, comme une graine oubliée, dont les effets, dont les floraisons splendides obéissent au hasard, à un soleil qui jaillit, qui luit tardivement. Commis à 12 ans dans la maison d'Aldriguer de Strasbourg, le baron n'avait jamais mis le pied dans le monde des sentiments. Aussi restait-il devant son idole en entendant 1000 phrases qui se heurtaient dans sa cervelle et n'en trouvant aucune sur ses lèvres. Il obéit alors à un désir brutal où l'homme de 70 ans reparaissait.
« Voulez-vous finir, rue Tête-Boute ? » lui dit-il.
« Où vous voudrez, monsieur ? » répondit Esther en se levant.
« Y vi foudrez ! »
répéta-t-il avec ravissement.
« Vous êtes un ange descendu du ciel, et que j'aime comme si j'étais un petit jeune homme, quoique j'aie des cheveux gris.
Ah, vous pouvez bien dire blanc, car ils sont d'un trop beau noir pour n'être que gris, » dit Asie.
« Va-t'en, filaine fanteuse de chair humaine, tu as ton archante, ne bave plus sur cette fleur d'amour !»
s'écria le banquier en se remboursant par cette sauvage apostrophe de toutes les insolences qu'il avait supportées. « Vieux palisson, tu me paieras cette phrase-là » lui dit Asie en menaçant le banquier par un geste digne de la halle qui lui fit hausser les épaules. « Entre la gueule du pot et celle d'un licheur, il y a la place d'une vipère, et tu m'y trouveras, » dit-elle excitée par le dédain de Nucingen. Les millionnaires dont l'argent est gardé par la Banque de France, dont les hôtels sont gardés par une escouade de valets, dont la personne a dans la rue le rempart d'une rapide voiture à chevaux anglais, ne craignent aucun malheur. Aussi le baron lorgna-t-il froidement Asie en homme qui venait de lui donner 100 000 francs. Cette majesté produisit son effet. Asie exécuta sa retraite en grommelant dans l'escalier, et tenant un langage excessivement révolutionnaire, elle parlait d'échafaud.
« Que lui avez-vous donc dit ? » demanda la Vierge à la broderie, car elle est bonne femme. « Elle vous a fenti, elle vous a folé.
Quand nous sommes dans la misère, » répondit-elle d'un air à fendre le cœur d'un diplomate, « qui donc a de l'argent et des égards pour nous ?»«
Pauvre petite, » dit Nucingen, « ne restez pas une minute de plus ici. »